C'est parti pour le magazine des déchaînés du football, 19h05. Merci d'écouter Radio Bonheur en direct ce soir pour le magazine pendant 1h30, 90 minutes de foot sur Radio Bonheur de 19h à 20h30. On va pouvoir reparler de ce qui s'est passé ce week-end avec bien sûr les clubs pro que nous suivons, Guingamp, Brest et Lorient. Ça s'est bien passé pour un seul club en fait, pour Brest hein, qui a réalisé quand même presque un exploit en battant Monaco, c'était pas gagné d'avance, 1-0. Performance nettement moins bonne par contre pour les deux autres clubs bretons que nous suivons, pour Lorient notamment, défait 3-1 face à Metz, un club du championnat de Lorient, c'est plus inquiétant pour Lorient. Même chose pour Guingamp, défait à Dunkerque, voilà une équipe somme toute assez moyenne de ce championnat de Ligue 2. Deux défaites inquiétantes, heureusement Brest est là pour nous donner le sourire ce soir. Les déchaînés du football avec Pierre-Henri Dufay. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous.
Les déchaînés du football avec évidemment Gaëtan. Bonsoir Gaëtan.
Bonsoir Dominique, bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Et Sébastien Leboudec est aussi avec nous. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bon, alors un week-end mi-figue, mi-raisin, comme bien souvent, mais là on a...
Je dirais même plus figue que raisin, Dominique.
Mais là c'est vrai que, bon, à part Brest, on est un peu déçus. Quand on regardera également le championnat national, on s'apercevra que les clubs bretons qui jouent en 3e division, Saint-Brieuc et Concarneau, n'ont pas réussi à gagner non plus à domicile. Hein. Saint-Brieuc tenu en échec contre Lyon et Concarneau contre Bastia. Somme toute, un week-end pas évident pour les clubs bretons.
Et heureusement qu'il y avait le Stade Brestois donc ce week-end qui alors a offert peut-être un peu moins de spectacle que sur les précédents matchs, mais a gagné contre Monaco, en plus sans prendre de but, double satisfaction. Donc ce week-end, victoire 1-0. On va tout de suite, sans en dire davantage, écouter le résumé de ce match dans les conditions du direct. C'était hier après-midi sur Radio Bonheur.
Le centre de la surface, la reprise et le but. Le but du Stade Brestois déjà à la 8e minute. C'est Romain Favre, l'ancien monégasque, qui ouvre le score et qui inscrit son premier but, son deuxième but déjà, avec le Stade Brestois 1-0 pour Brest face à Monaco. Un ballon gratté par Jérémy Le Doiron sur le côté gauche, direct décalé Charbonnier, le centre légèrement coupé au premier poteau et Romain Favre au deuxième qui avait parfaitement suivi et qui a frappé pied droit pour tromper Benjamin Lecomte. 1-0 pour Brest face à Monaco. Et Brest retourne encore à l'attaque avec Belkebla qui a hérité d'un jaune tout à l'heure. Attention à Mounier, la frappe de Mounier, peut-être non, c'est sauvé sur la ligne. Lecomte qui a détourné et derrière ça a été sauvé sur la ligne par Ghislain Matsiba. On était tout proche du 2-0. Oh, attention ici à la frappe de Jenson Martins pour Monaco sur la pelouse de Brest. Elle est passée au ras du poteau, la frappe de Martins servie par-dessus la défense par Cesc Fabregas. Ici à Brest encore, Volante, pas de position de hors-jeu, en retrait pour Fabregas qui va mettre ce ballon dans la boîte. Il y a du monde et notamment Bianconi, la frappe de Bianconi juste à côté du cadre. On voit des Brestois très entreprenants. Oh, la relance manquée de Monégasque avec Charbonnier dans la surface. Ah, oh, qui va buter encore sur Benjamin Lecomte au point de pénalty quasiment. Surface de réparation, le ballon retrait, c'est sorti par le gardien juste sur son poteau droit, corner pour le Stade Brestois.
Dans les 10 dernières minutes de ce match.
Attention, Jovetic de la surface de réparation, ce ballon est contré, heureusement, parce que il semblait que l'Arseneur soit peut-être battu. Attention Jovetic pour Aguilar à droite. Aguilar centre au deuxième poteau. Tête de Jovetic, ça passe au ras du poteau. Énorme occasion celle-là, c'est la plus dangereuse.
Ah,
Attention, Malgachil dans la surface pour les Monégasques. La frappe à côté. Hop, hop, hop. Là, on était vraiment tout proche, tout proche, tout proche de l'égalisation. Et c'est terminé. Le Stade Brestois ne concède pas de but et s'impose un but à zéro.
Et belle victoire du Stade Brestois contre un gros club de Ligue 1 quand même, Monaco, qui a des prétentions cette année. Et surtout, Brest a tenu. Brest n'a marqué qu'un but. Brest a une bonne attaque dans ce championnat de Ligue 1, une défense un peu moins bonne. Mais contre Monaco, et malgré leurs assauts en fin de match, ça a bien tenu et ça, c'est rassurant.
Exactement, c'était Brest la pire défense avant cette sixième journée avec 12 buts encaissés. Alors désormais, d'autres ont concédé plus de buts maintenant, comme Lorient, par exemple, ou Angers qui a pris 6 buts à Paris, mais le Stade Brestois a retrouvé une certaine solidité sur ce match, a réussi finalement à contenir les quelques assauts monégasques. On le disait hier pendant le match, Monaco n'arrivait pas à trouver la solution offensivement, mais c'est aussi parce que la défense brestoise était bien en place, une défense à 4 défenseurs qui avait été modifiée parce qu'Erel était absent, donc c'était Chardonnay, Duverne dans l'axe, mais qui était une défense à 4 qui passait à 6 parfois quand les deux ailiers finalement sur phase défensive venaient prêter main forte aux 4 de derrière, et conséquence, le plan d'Olivier Dalloglio a parfaitement fonctionné. Il a retrouvé une solidité, l'entraîneur que l'on écoute.
Il y a eu moins de ballons que d'habitude, ça n'a pas empêché d'avoir quand même 2-3 occasions quand même assez intéressantes. Il fallait tenir. J'avais demandé la semaine dernière à mes joueurs d'être plus solides pour apprendre à gagner, et aujourd'hui on a gagné, on n'a pas pris de but. Ça a été dur jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, mais c'est un super résultat pour nous. Ça nous permettra de travailler un peu plus sereinement effectivement sur les prochaines semaines.
Ouais, ça rassure tout le monde de ne pas concéder de but sur ce match, d'autant qu'en face c'était quand même Wissam Ben Yedder, Stefan Jovetic, Kevin.
Il y avait du monde, des individualités qui pouvaient à tout moment faire la différence.
Exactement, ça pouvait faire mal à tout moment. Au lieu de ça, très peu d'occasions, vous l'avez entendu pour Monaco dans le résumé, sauf en toute fin de partie, dans les 10 dernières minutes. Ça s'est un peu accéléré parce que ça se compliquait aussi côté Brestois après tous les efforts fournis jusque là, des efforts qui se traduisent aussi par un état d'esprit collectif retrouvé, notamment défensivement, parce que on a vu cette équipe de Brest défendre vraiment. Tous les joueurs ont défendu, les 11, bloc, oui. Même les attaquants en bloc. Vous, Pierre, qui avez vu Brest déjà plusieurs fois aussi cette saison, c'était pas toujours le cas sur les premiers matchs du Stade Brestois.
Non, c'est vrai. Après, il y avait eu aussi des petites erreurs de concentration parfois, et aussi sur les coups de pied arrêtés. Les Brestois avaient été très poreux ces derniers temps. Je prends l'exemple du match d'Angers où Angers n'était quasiment pas dangereux, mais il y avait eu une période de 5 minutes terrible où Angers avait marqué les deux buts de la victoire la semaine dernière. Donc là, peut-être qu'il y avait plus de concentration, parce que sans faire offense à Angers, Monaco est quand même d'un tout autre calibre dans ce championnat. Ça peut être aidé les défenseurs brestois à être davantage impliqués. En tout cas, on sent que la leçon a été retenue par rapport au dernier match, avec ce clean sheet, ce match en prendre de but qui arrive à point nommé pour ne pas faire en sorte que Brest puisse enchaîner un deuxième résultat négatif.
Un état d'esprit collectif donc pour l'équipe du Stade Brestois. C'est aussi là-dessus que l'entraîneur du SB 29 s'est exprimé en conférence de presse.
Oui, on peut dire qu'on a trouvé ça sur ce match-là. C'était nécessaire. De toute façon, on ne pouvait pas passer au travers de ça face à des joueurs qui sont individuellement très très bons, et collectivement aussi, parce qu'on a vu que tactiquement c'était solide. Donc obligation d'avoir cette abnégation, on n'avait pas le choix.
Eh oui, sans cela, ça aurait été sans doute davantage compliqué contre une équipe de Monaco qui a perdu Wissam Ben Yedder un peu plus tôt que prévu, parce qu'il avait été touché en fin de première mi-temps. Il est sorti un peu après l'heure de jeu, vers la 65e minute, ce qui a aussi gêné Monaco bien sûr dans ses plans, mais tout de même le Stade Brestois a parfaitement tenu. Alors le côté moins positif, si on peut le dire ainsi, pour Brest dans cette situation, c'est que Brest effectivement a eu beaucoup moins le ballon qu'habituellement, a proposé peut-être moins de spectacles, a été sur le recul pendant assez longtemps, moins joueur.
Oui, mais ça peut aussi faire partie.
Ça se comprend.
Exactement.
Il faut avoir plusieurs palettes aussi dans une saison. Vous ne pouvez pas jouer comme Brest a joué contre Marseille, Angers ou Brest toute une saison. Et je trouve que c'est pas mal d'avoir, je ne sais pas si on peut appeler ça un plan B, mais avoir d'autres
cordes
à son arc. Voilà, s'adapter. Ouais. C'est vrai, je regardais en termes de possession, Gaëtan, Brest est 8e de Ligue 1, donc dans la moyenne haute.
Ça
fait partie des 8 seules équipes de Ligue 1 qui ont plus de 50% le ballon en moyenne en Ligue 1.
Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ils sont habitués, les Brestois, à avoir ce ballon. Ils ne sont pas habitués à laisser la possession aux adversaires. Et Jean-Kévin Duverne, lui, il n'aime pas trop quand il n'a pas le ballon. Écoutez le capitaine Brestois.
Compliqué, franchement. Ne pas avoir la balle tout le match, c'est relou. Parce qu'on est une équipe qui aime avoir le ballon. Les petites passes, jouer... Et aujourd'hui, on ne l'a pas eu, mais c'est 3 points de prix contre Monaco. Et des fois, il n'y a pas la manière, mais il y a la victoire.
Oui, pas la manière, la victoire, c'est relou, comme dit Jean-Kévin Duverne, ne pas avoir le ballon. Mais ça fait effectivement partie de la palette d'une équipe aussi, d'avoir comme ça cette capacité, comme vous le disiez, Pierre et Dominique, d'adaptation sur un championnat, d'autant plus après les nombreux buts encaissés par le Stade Brestois depuis le début de la saison. Il faut apprendre à souffrir, c'est aussi ce qu'a dit Jean-Kévin Duverne. On va l'écouter à nouveau, Jean-Kévin Duverne, parce que effectivement, apprendre à souffrir, ça fera partie de certains matchs cette saison du Stade Brestois.
On doit savoir que certains matchs, on va pas tout le temps être joli à voir, beau, de temps en temps, faut apprendre à souffrir, dégager la balle, pas prendre de risques, c'est pas grave. Des occasions on aura pendant le match, on est aussi une équipe joueuse, on sait souffrir quand même, donc on va apprendre sur cela.
Brest a fait le dos rond.
Oui, en plus, ce qui n'a pas aidé à ça, c'est que Brest marque très tôt. Donc, tout de suite, Brest a été dans une position de gestion du résultat.
C'est ça, avec le but de Romain Fèvre.
C'était d'autant plus difficile, donc chapeau à eux.
Ouais, parce que forcément, Monaco, derrière, a constamment essayé de revenir dans ce match. Ça a été difficile pour les Monégasques face au stade brestois. Alors, il y a eu aussi un fait, on va dire, dans cette rencontre, c'est qu'il y a eu des changements brestois qui sont arrivés très tard dans ce match, parce que ça se passait plutôt bien pour les Brestois. On se souvient aussi, Pierre, que la semaine précédente, à Angers, les remplaçants n'avaient pas forcément apporté toute la satisfaction espérée.
J'allais vous en parler, parce qu'effectivement, ça a été un point de débat la semaine dernière, notamment les doubles sorties de Charbonnier et Fèvre qui avaient coïncidé avec le moins bon passage de Brest. Et du coup, dans les 20 dernières minutes, il y a eu deux buts d'Angers, qui par contre, avec Stéphane Moulin, avait agi tôt avec un double changement déjà à la mi-temps, puis un autre double changement avec les entrées de Cabot et Diony, qui avait peut-être pas changé la face du match, mais qui avait permis à Angers d'enflammer la fin de rencontre et de la faire basculer. Alors Dalloglio n'avait pas trop regretté ce choix-là. Je ne sais pas ce qu'il en a été hier.
Eh bien, Olivier Dalloglio justement explique que le match d'Angers leur a permis de réfléchir un petit peu différemment sur les remplacements.
Ouais, Irvine sait que sur le début de saison, par exemple, il peut mieux faire. Voilà. Mais ça c'est entre nous et ça reste dans les vestiaires. Après, je pense que des périodes comme ça, elles sont difficiles pour les joueurs, mais elles sont fructueuses après. Parce qu'en fait, quand tu analyses bien ton souci, quand tu as mangé un petit peu du banc, derrière, si tu as les crocs, tu reviens plus fort. Donc je pense que c'est des périodes qui peuvent vraiment servir ces garçons comme ça. Voilà. Après, il y a une grosse concurrence devant. Hein. Il y a Romain Philippotto, il est prêt, lui il a fait une belle préparation aussi. On a Franck Honora qui a raté un petit peu son début de saison comme Irvine, mais c'est des garçons qui vont apparaître tôt ou tard.
Ouais, des garçons effectivement qui viendront aussi s'insérer dans ce collectif. Irvine Cardona qui s'est déjà bien inséré avec un super but à Dijon, hein, on s'en souvient il y a quelques semaines. En tout cas, voilà, victoire du Stade Brestois, un but à zéro. Donc les choix cette fois d'Olivier Dalloglio ont été payants, puisque ça a conduit à la victoire. Brest compte 9 points dans ce championnat de Ligue 1, 9
mal,
points
hein.
sur 18, ouais. Ça fait la moitié, c'est plutôt
pas
mal.
Ouais, et puis ça fait 3 victoires sur les 4 derniers matchs.
Ouais, en plus, 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Brest est 11e.
Ça aurait dû être 4 sur 4, hein, quand même.
Ouais, c'est vrai qu'à Angers, on se dit qu'il y avait 3 points de plus à prendre hein, pour les Brestois dans cette rencontre. Brest est 11e avec 9 points. Execo avec Angers, justement, avec Marseille, avec Bordeaux aussi. Et puis surtout, compte 6 points d'avance sur le barragiste strasbourgeois. Donc c'est une première, si on pouvait faire un bilan, disons, parce qu'on arrive à une trêve internationale, ce serait un bilan plutôt positif pour le Stade brestois sur ce début de saison.
À noter que nous sommes le 5 octobre, dernier jour donc du mercato estival, même si là on est plus en automne, ce que nos amis anglais appellent le deadline day. J'adore cette expression. Il se passe beaucoup beaucoup de choses lors de ce dernier jour du mercato. Et à Brest, la question c'est qui pour remplacer Ibrahima Diallo, qui avait bénéficié d'un bon de sortie. On vous en avait parlé depuis le début de saison du côté de Brest. L'offre est venue, elle a été acceptée, celle de Southampton, le club anglais. Ibrahima Diallo y a signé pour environ 15 millions d'euros. Du coup, Brest se cherche un remplaçant à Ibrahima Diallo. L'équipe aujourd'hui nous a annoncé que 3 joueurs avaient été ciblés pour le remplacer. Ibrahim Amadou, le joueur de Séville, Kouadio Kone, le jeune joueur de 19 ans qui évolue à Toulouse, et Danilo qui lui est à Nice. Nice a refusé le prêt de Danilo. Kouadio Kone, on ne sait pas trop où on en est pour l'instant, mais en tout cas le télégramme vient de nous informer que Ibrahim Amadou n'allait pas arriver à Brest. Séville était pourtant d'accord pour prêter son milieu de terrain qui était de mémoire l'année dernière à Leganés en Espagne. Il devrait prendre la direction d'Angers en prêt. Et il y a un autre nom qui nous a été aussi annoncé par le Télégramme, c'est celui d'Anoa Massengo, qui est un jeune milieu de terrain qui évolue aujourd'hui à Bristol, mais qui appartenait aussi à Monaco. On sait que Brest aime la filière monégasque, qu'on voit avec Fèvre, avec Cardona et d'autres. Diallo aussi qui venait lui-même de Monaco, donc c'est à suivre. Pas sûr qu'il y aura un remplaçant à Diallo pour former notamment la paire avec Belkebla, mais c'est le dossier qui va animer ces toutes dernières heures du mercato brestois.
Une petite page de pub et puis on revient pour parler cette fois du Football Club de Lorient.
Une assurance auto solidaire de mon budget.
Avec l'assurance auto Massif, que votre moteur soit thermique, hybride ou électrique, vous profitez à la fois des meilleurs tarifs auto du marché et des garanties du numéro 1 de l'assurance auto. Un contrat qui respecte votre budget et qui vous permet d'être bien protégé sur la route.
Massif, essentiel pour moi.
Tarifs parmi les meilleurs du marché, hors promotion. Massif, première société d'assurance en nombre de contrats auto en France en 2019.
Bon, on fait quoi pour le divorce ?
Bah, je garde la maison. Et la voiture ?
Pas question. Pas la Polo.
Bah, c'est ma voiture.
Alors, je veux plus divorcer.
Thomas, je t'en prie.
Mais je t'aime.
Thomas !
Quoi ? Si, je t'aime, je te re-aime.
Non,
mais ça arrive tout le temps, ces trucs-là. Allô ? Mon amour ?
On ferait tout pour une Volkswagen. En octobre, 3 mois de loyer offert sur une sélection de véhicules Volkswagen. Remise pour les 3 loyers suivants, le premier versement. Offre LLD aux particuliers sur 37 mois, si acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur Volkswagen.fr. Porte ouverte l'édition octobre.
Au fait, t'as une Volkswagen, toi, non ?
Oui, pourquoi ?
Parce que Volkswagen t'offre le contrôle technique.
Et y a pas de surprise ?
Du genre ?
Bah, du genre offert payant, offert avec un astérisque, tu vois, quoi.
Non.
Le contrôle technique est offert chez Volkswagen et c'est sans surprise. Offre valable chez les réparateurs agréés Volkswagen participants jusqu'au 11 décembre, hors éventuels travaux et contre-visite. Conditions sur Volkswagen.fr.
Dans mon salon, il fait si froid que les ours polaires entrent chez moi. Alors, je vais prendre un artisan qualifié pour remplacer ma chaudière avant de finir dévorée.
Et ça, c'est easy.
Avec Easy by EDF, profitez de solutions de chauffage adaptées pour remplacer votre chaudière. Mes travaux réussis, c'est simple. C'est easy.
Voir conditions sur easy.edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Ceci est un message de l'établissement français du sang. En raison de la Covid-19, le niveau des réserves de sang est exceptionnellement bas. Avec la crise sanitaire, il est plus difficile pour nous d'organiser des collectes et moins simple pour vous de vous y rendre. Pourtant, les besoins en produits sanguins sont toujours aussi importants. Il y a urgence. Venez donner votre sang. Pour savoir où donner, rendez-vous sur le site de l'établissement français du sang.
Oh là là, c'est la folie, toutes ces feuilles mortes dans le jardin.
Oh, m'en parle pas, et regarde l'état des haies. Oh, c'est la folie.
Ah non, mais c'est la folie, on va jamais y arriver.
Ouais, c'est la folie.
Hé, mais regarde, c'est la folie.
Quoi ?
C'est l'automne en folie chez Style. En ce moment, la seconde batterie pour outils de jardin est à moins 50%. Et il y a encore plus d'offres de folie chez les revendeurs. Ah, c'est dingue.
Attends, tu veux dire, c'est la folie ?
Oui, bah c'est ce que j'ai dit.
Voir conditions de l'offre chez votre revendeur Style agréé ou sur style.fr.
C'est le retour d'Amazon Prime Day. Les 13 et 14 octobre, profitez de deux jours de vente flash exceptionnelle sur les produits que vous aimez. Deux jours pour choisir votre nouveau mixeur, trouver une robe pour votre maman ou même faire vos achats de Noël à l'avance. Que ce soit pour vous, votre famille ou même votre chat, vous avez deux jours pour économiser sur l'électronique, la maison, la mode et bien plus encore. Ne ratez pas Amazon Prime Day les 13 et 14 octobre. Rejoignez Amazon Prime pour en profiter. Amazon Prime est un abonnement payant. Voir tarifs et conditions sur amazon.fr/prime.
Tu sais pas la dernière?
Quoi?
Paul a pris un stagiaire pour l'aider à gérer tous ses fournisseurs. Énergie, matériel, marchandises.
Oh, oh, dis donc, mais il veut pas un chauffeur pour l'amener faire ses livraisons non plus. Je m'en sors sans problème, moi.
Profitez d'un seul fournisseur pour votre électricité et votre gaz avec EDF Entreprises. Une facture unique qui facilite votre quotidien de professionnel. Pour plus d'infos, contactez votre conseiller au 3022. Devenons l'énergie qui change tout. Appel gratuit, offre et services proposés par EDF et ses filiales. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
On retrouve Soyons Proactifs avec Cerise de Groupama.
Ça se passe bien là-dessous? Oh pardon Lionel, je vous déconcentre.
Pas du tout Cerise, mais c'est vrai, quand on fait de la mécanique, vaut mieux s'appliquer.
Dans un garage, une erreur peut avoir de graves conséquences.
Exactement, et si ça m'arrive, ma responsabilité peut être engagée.
C'est pour cette raison qu'avec l'assurance multirisque des pros de l'auto, Groupama vous accompagne et protège votre activité. Vous soutenir, vous et tous ceux qui participent à la relance de l'économie locale, c'est comme ça qu'on voit les choses chez Groupama. Groupama. La vraie vie s'assure ici.
Info sur groupamapro.fr. Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat.
Carrefour. Pour la santé de tous, ensemble, maintenons les gestes barrières. Le port du masque est obligatoire dans tous nos magasins. Nos caisses restent équipées de mobilier de protection et tous nos collaborateurs ont à disposition masques et gel hydroalcoolique. Nos chariots, paniers, scanettes et balances sont régulièrement désinfectés. Ensemble, respectons la distanciation physique dans nos zones marché et lignes de caisse. Ensemble, restons mobilisés. Carrefour.
Retrouvez toutes les informations et tous nos engagements sur carrefour.fr.
Le magazine des déchaînés du football, 19h26. Alors ça va bien pour Brest, on vient d'en parler en Ligue 1. Ça va moins bien, beaucoup moins bien pour Lorient qui n'a plus gagné maintenant depuis la première journée. Et on va bientôt connaître la 7e journée de ce championnat de Ligue 1. C'est inquiétant Pierre.
Dans quel état m'avez-vous rendu vos merlus, Gaëtan? Je vous les ai laissés en Ligue des Champions. Et vous me les rendez là non, c'est vrai que...
Vous allez me les envoyer en Ligue 2, là
J'en ai bien peur. Je porte pas trop chance à nos équipes en ce moment. Hein,
ouais, Guingamp, c'est moyen.
Même Brest, vous les avez fait perdre la semaine dernière. C'est pas possible.
Ouais, c'est pas normal.
Il y a une grosse remise en question.
En fait, Pierre, vous êtes un peu le Poissman des déchaînés. Parce que Guingamp, ça gagne pas. Brest, ça gagne pas. Lorient, ça gagne pas.
Pire, ça perd partout.
Ça perd partout.
Ouais.
Bon, c'est catastrophique.
Alors, n'exagérons pas quand même, messieurs. Mais c'est vrai que... Mais c'est vrai que Lorient va un peu moins bien depuis son retour en Ligue 1. Pas de victoire depuis la première journée. Et puis là, une défaite contre un club somme toute moyen, contre Metz, qui va se battre également pour son maintien.
Qui devrait se battre effectivement pour son maintien. On va replonger donc dans ce Metz-Lorient au travers du résumé. Ensuite, on fera l'autopsie de cet échec et l'autopsie aussi du début de saison, parce que Christophe Pélissier nous a dressé un premier bilan. Voici d'abord le résumé en musique de ce Metz-Lorient qui était hier après-midi.
Ici à Metz, la frappe d'Amel. Grosse occasion pour Lorient sur ce contre, mené à 3 avec un long ballon de Le Goff sur le côté gauche. Il y a eu un double 1-2 entre Wissa et Amel, et finalement Amel qui s'est retourné dans l'axe de la surface de réparation juste avant la surface. Une frappe sèche et Oukidja qui a été obligé de boxer, de claquer. C'est lui donc qui permet à mon conduit de frapper ce coup franc qui a été touché. Et Amel qui marque. Amel qui marque le coup franc de mon conduit qui a été touché par le mur messin. Et Amel qui était là, oublié de tous, pour mettre sa tête devant le but. Il y a Brand, je crois, Widol, qui a touché ce ballon, qui a tenté de le freiner sur la ligne, mais ce n'était pas suffisant. But d'Amel, son deuxième de la saison après celui inscrit contre Strasbourg lors de la première journée. C'est contre le cours du jeu, mais pas contre l'histoire de ce match, parce que Amel était déjà celui qui a vu la plus franche occasion tout à l'heure. Lorient mène 1-0 à Metz. Attention là, ce ballon pour Nguetwa qui s'est faufilé entre trois Lorientais dans la surface de réparation. Ça reste sur Nyan. Nyan devant un pénalty. Ah, pénalty de Nyan qui se présente face à Nardi. Yann, c'est but. C'est Lucarne, superbement frappé. C'est lui qui marque tous les buts de Metz, monsieur 100%, Ibrahim Agnan, le Sénégalais de 21 ans, qui ramène le score à un but partout, juste avant la mi-temps. Ils sont... Oh là là, attention à ce ballon perdu là par les Lorientais, et Nian qui va se présenter en 1 contre 1 dans la surface avec Fontaine. Nian qui frappe et qui marque. Et voilà, Lorient puni, c'est encore monsieur 100% Ibrahim Agnan.
Superbe centre de Maïga à l'opposé pour aller chercher Victorien Ngbon. Il y a deux Messins dans la surface, la tête et le troisième but. Le triplé d'Ibrahim Agnan sur ce centre d'Ngbon. Lorient, beaucoup trop passif. Nian qui est venu au premier poteau décroiser sa tête. Un magnifique geste de buteur. Sixième but messin cette saison. Le sixième de Nian. Le poison, le cauchemar lorientais. 3 buts 1 pour Metz, 64e minute.
C'est même terminé. Lorient a coulé ce soir à Metz. Les mains sur les genoux pour Laporte, pour Bozok, pour Mendes. Ils sont passés à côté, les Lorientais aujourd'hui. Manque d'audace, d'ambition dans le jeu. Les Lorientais punis par cela. Défaite 3 buts 1. Celle-là, elle peut faire très très mal au moral face à un concurrent.
Bonjour, merci d'être venu aussi vite. C'est le déluge dans tout le bâtiment.
Ah oui, ça doit fuir sur plusieurs canalisations. Bon, ben on va régler ça.
Ah bon? Pourquoi les autres plombiers refusent de se déplacer alors?
Disons qu'il faut être bien équipé.
Pendant les jours Renault Pro Plus du 1er au 10 octobre, repartez avec Renault Master Series Spécial Pro Plus suréquipé et payé en 2021. Crédit bail sans apport, 3 premiers loyers à 0 euros avec assistance pour toute commande passée sur le mois en cours. Modalité en point de vente, si accordiaque, offre non cumulable réservée aux pros.
Le magazine des déchaînés du football en direct sur Radio Bonheur. Et ce résumé qui ne nous réjouit pas parce que Guingamp, Lorient était quand même l'auteur du premier but. Il y a eu certes une égalisation, mais on était encore à 1-1 à la mi-temps. Et même à la mi-temps, tous les espoirs étaient encore permis, hein, Pierre. Mais franchement, la seconde période, Lorient a été beaucoup trop perméable et n'a pas su construire encore une fois.
Oui, il y a eu plusieurs grandes difficultés dans ce match. Déjà avec donc ce choix 5 derrière de Christophe Pélissier. C'est une tactique qui avait fonctionné contre Lyon, qui aurait pu fonctionner contre Metz, même si c'est vrai que l'on espérait peut-être un peu plus d'ambition contre une équipe moins huppée de ce championnat. Mais surtout, ce qui n'a pas fonctionné dans le schéma, au-delà du schéma, c'est l'animation. Parce que Lorient a très bien su réussir à ressortir le ballon dans les 10-15 premières minutes et poser des problèmes à cette équipe de Metz.
Mais ça n'a pas duré.
En témoigne effectivement la frappe d'Amel au tout début du match. Ça n'a pas duré. Metz n'a pas été dangereux en première période. Il y a eu cette erreur de Fontaine avec le pénalty qui a offert donc, non pas un sursis, mais la balle d'égalisation à l'équipe de Metz.
Ça a relancé Metz. Ah oui, tout à fait.
Exactement, ça a été vraiment en seconde tournant, période. Hein, ouais. Ouais, le tournant effectivement de ce match, alors que Lorient menait 1-0. Première réaction, les premiers thèmes abordés dans cet après-match avec Christophe Pélissier. Ce choix donc, Lorient encore à 5. Voici pourquoi Pélissier a choisi de maintenir ce schéma qui avait fonctionné contre Lyon.
Ouais. Oui, parce que la semaine dernière, ils avaient pris des repères là-dessus. On savait que c'était un peu le même profil, même si on avait aujourd'hui deux attaquants. On ne voulait pas qu'ils prennent de la profondeur, on voulait pas prendre, comme je dis, jusqu'à la 43e minute, le plan il est parfait pour nous parce qu'ils ont pratiquement zéro situation. Et nous, on savait que si on avait eu cette qualité un peu plus de sortir au milieu, on s'est créé les 2-3 situations. Après, on avait du mal à exister sur notre jeu long pour garder le ballon plus haut, donc il fallait sortir par du jeu court. Metz est venu nous chercher là, récupérer des ballons. La clé du match, ce que j'ai dit aux joueurs à la mi-temps, il était là. Hein. C'était soit on arrivait à sortir des ballons et on pouvait vite prendre de la vitesse sur les côtés, soit on les mettait en situation favorable. Malheureusement, je n'avais pas pensé qu'on allait offrir ce second but à l'équipe messine.
Ouais, le deuxième but qui a débouché d'une mauvaise passe de Laporte vers Lemoine qui perd le ballon et tout de suite en deux passes Metz a réussi à marquer. Ça nous a vraiment surpris, hein. Gaëtan, on était avec nos collègues de la presse écrite et quand je leur ai appris, parce que j'ai vu la composition assez tôt, quand je leur ai appris que c'était à 5, on a tous été surpris, ouais. Parce qu'on s'y attendait pas contre Metz.
Ben non, c'est vrai que Christophe Pélissier la semaine dernière contre Lyon avait laissé entendre, alors peut-être aussi cachait-il bien son jeu, mais que cette défense à 5 serait utilisée que contre 3-4 équipes du championnat. Dans les 3-4 équipes, il y avait déjà eu Lyon. On pouvait s'attendre à ce que ce soit le Paris Saint-Germain, peut-être Marseille ou Lille ou ce genre d'équipe. On ne s'attendait pas à ce qu'ils reconduisent cette défense à 5 sur la pelouse de Metz. Donc ça a surpris. Et ce qui est contrariant, c'est que ce schéma qui avait rassuré contre Lyon, eh bien, ça n'a pas du tout été le cas à Metz. Et Ça peut, disons que ce schéma-là ne pourra peut-être pas être utilisé en secours comme on aurait pu l'imaginer après le match nul contre Lyon.
Surtout s'il y a une telle faillite défensive sur laquelle revient Pélissier.
Non, mais voilà, ce que je dis, c'est que on prend entre le premier et la 43e minute alors qu'on mène 1-0 sur une erreur. Et derrière, deuxième mi-temps, on refait la même erreur et on prend deux buts en 5 minutes. Mentalement, c'est dur à revenir dessus. Voilà, c'est... On ne peut pas incriminer les joueurs là-dessus, mais voilà, je crois que à l'heure actuelle, tant qu'on n'est pas capable d'être plus solide défensivement, on ne peut pas espérer grand-chose.
Et ce qui manque à cette défense et plus globalement à cette équipe de Lorient, c'est de la puissance physique. Et Pélissier en parle depuis plusieurs semaines, Gaëtan. On va écouter sa réaction à ce sujet parce que ça a un petit peu bougé dans cette fin de mercato.
Bon, on le voit en termes de puissance. En termes de puissance, on n'est pas au niveau de la Ligue 1. Je crois que chaque duel a été remporté deux fois sur trois par un Messin. C'est compliqué. Voilà, donc comme je le dis, il faut s'y mettre, mais il faut arrêter de dire jour après jour, journée après journée, on est les promus. Ouais, on est les promus, on sait. On sait que ça va être dur maintenant. Voilà, il y a des joueurs aussi qui vont rentrer, qui vont nous amener cette puissance qu'on attend.
Alors, qui sont ces joueurs qui sont censés amener de la puissance, cher Gaëtan?
Ben, je pense qu'il y a une recrue qui a ce profil-là, c'est Terem Moffi, l'attaquant qui est arrivé la semaine dernière en provenance du club belge de Courtrai, qui avait démarré d'ailleurs sa carrière en Lituanie, qui a mis but sur but en Lituanie, qui est arrivé à Courtrai, qui a marqué 5 buts en 9 matchs et qui donc a rejoint le FC Lorient. Lui, de par son gabarit, son profil, ça semble être le joueur qui va pouvoir amener cette puissance. Même chose pour Andrew Gravillon derrière, qui est prêté par l'Inter Milan. C'est un défenseur central qui peut aussi dépanner sur le côté droit. C'est aussi un profil qui pourrait amener cette puissance là. Après, il va falloir aussi la trouver parmi les joueurs déjà présents. Il va peut-être falloir que certains joueurs qui sont déjà au club haussent leur niveau, apprennent, ouais, de ce début aussi de saison.
Moi, il y a une question que je me pose. Un joueur qui ne joue pas beaucoup, et je l'avais bien aimé quand il était arrivé, mais c'était il y a longtemps, c'était il y a 2-3 ans, je l'avais vu en match amical contre Guingamp, c'est Franklin Wadja. Est-ce que ce n'est pas ce type de joueur qui est capable de s'insérer au milieu, de se relancer? C'est vrai qu'il ne joue pas beaucoup, hein, même l'année, ouais, dernière, il n'a pas beaucoup joué.
L'année dernière,
est-ce que lui, ce n'est pas un profil pour amener un peu plus ce domaine de puissance qui manque?
Ça pourrait, effectivement, la puissance. Techniquement, c'est peut-être un peu en dessous de Laurent Abergel et de Fabien Lemoine. C'est vrai que physiquement et donc du côté de la puissance, ça pourrait apporter. Alors l'année dernière, il n'a pas beaucoup joué. Quand il a joué, c'était vraiment une solution de repli, de recours. Par contre, il a fait une bonne préparation cet été. Je l'ai vu jouer d'ailleurs contre Rennes et je crois aussi le Stade Brestois, oui c'est ça. Il avait été plutôt en jambes, je l'ai trouvé vraiment dans le rythme déjà. Ça peut être une solution aussi à terme, d'autant plus qu'avec les 9 remplaçants qu'on peut avoir maintenant sur les feuilles de match cette saison, il est déjà apparu une ou deux fois. Alors s'il a fait deux entrées en jeu, je crois, mais de très très courte durée, peut-être que ça va être un choix du côté de Christophe Pélissier. En tout cas, une cartouche qui pourrait être amenée à être utilisée un peu plus souvent.
En tout cas, avant de dresser le bilan après ces 6 premières journées, un point positif quand même hier, ça a été la relation Johan Wissa, Pierre-Yves Hamel, deux joueurs qui sont là depuis un bon bout de temps du côté de Lorient. Ça avait bien fonctionné aussi, Gaëtan, contre Lyon, parce que les deux avaient été impliqués sur l'ouverture du score.
Oui, les deux avaient été impliqués puisque Wissa était buteur, Hamel était passeur et Pierre Hamel qui partait dans la peau d'un remplaçant en début de saison quand même, parce que c'est vrai que le poste d'attaquant était promis à Adrian Gurbic, alors qu'il était sur le banc hier. Mais Pierre Hamel, c'est déjà deux buts et une passe décisive dans ce championnat. Donc ça commence quand même à compter aussi pour lui, même si malheureusement le but d'hier ne comptera pas pour grand chose. En tout cas, il n'a pas ramené de points. Ça montre que cet attaquant là est aussi décisif, tout comme évidemment Yohan Wissa, déjà auteur de 4 buts depuis le début de la saison.
Et puis Pierre-Yves Hamel qui a été titulaire là, hier pour la première fois de la saison. Christophe Pélissier revient sur ce point positif, mais se projette aussi très vite sur le négatif. Écoutez-le.
Ouais, mais c'est ce que je dis en première mi-temps. C'était le choix. On avait fait le choix de mettre deux attaquants. On voulait peser sur leur défense centrale et être un peu plus haut. Je crois qu'il y a eu des choses intéressantes sur la première mi-temps où ça peut mieux se terminer. Comme je disais, deuxième mi-temps, c'était être capable de faire ces sorties de ballon intéressantes qui pouvaient nous permettre de prendre la vitesse. Malheureusement, on n'a pas pu le faire et en plus, on offre le but à l'adversaire.
Oui, parce que c'était sur une sortie de balle, hein, le deuxième but, Laporte qui a voulu relancer au milieu sur Lemoine. La suite, on la connaît.
Ouais, c'était
points.
Déjà arrivé en plus ce genre de situation cette saison à Saint-Etienne notamment. C'est vrai qu'on dit que Lorient dit qu'il faut apprendre, mais il va vraiment aussi retenir ce genre d'erreurs-là parce que c'est des erreurs-là qui pour le coup coûtent très cher.
Alors le prochain match dans deux semaines en plus, là il va falloir ruminer pour cette équipe pendant deux semaines. Ça c'est dur d'avoir une mauvaise passe comme ça juste avant une mini trêve, avec un déplacement en plus à Reims. On sait que Reims n'est pas au mieux de sa forme dans ce championnat non plus. Il faudra pas se louper à Reims.
Non, allez-y Pierre.
Pardon, on va parler tous ensemble de ce début de saison lorientais. Juste après donc, le bilan comptable, 4 points en 6 matchs, 1 victoire, 1 nul, 4 défaites, 9 buts inscrits, ça c'est plutôt intéressant. Mais malheureusement 13 encaissés par les lorientais. Avis de Christophe Pélissier sur ces 6 premiers matchs, il n'est pas bon évidemment.
Ça veut dire que le bilan il est fait au bout de 6 matchs maintenant, 4 points c'est insuffisant. J'ai un effectif à disposition. Il y a des joueurs qui n'étaient pas prêts pour diverses raisons encore aujourd'hui, qui le seront peut-être dans 15 jours. Après, c'est toujours pareil. Je veux dire, quand on fait des performances, qu'on gagne, souvent on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Quand on fait 4 points en 6 matchs, ça veut dire qu'il y a des choses à améliorer. Donc, on a tenté plusieurs systèmes. Je crois que maintenant, il va falloir avoir de la stabilité, mais les joueurs vont arriver aussi, on le sait, qui vont amener, je l'espère, une qualité supérieure à cette équipe en termes de puissance, parce qu'on en manque cruellement.
Ouais. Voilà le bilan dressé par Christophe Pélissier. On ne peut qu'aller dans son sens.
C'est pas joyeux.
Moi surtout, on en parlait hier lorsqu'on s'appelle après les matchs, Gaëtan. Moi, ce qui m'inquiète surtout par rapport à ce qui s'est passé dans ce début de saison du côté de Lorient, c'est qu'ils ont gagné contre un Strasbourg qui était très diminué après une épidémie de Covid dans l'effectif.
C'était la première journée.
Oui. Ils ont joué Lens, Saint-Etienne, Brest, et
Metz.
Ce sont Metz. Et parmi ces équipes-là, il y a quasiment Saint-Etienne est 7e. Lens fait un très bon début de saison.
Lens c'est un promu. Brest et Metz, c'est deux équipes qui sont annoncées, alors on verra au cours de la saison, mais pour jouer aussi le maintien principalement dans ce championnat. Et en attendant, contre ces trois équipes-là, Lorient a pris à chaque fois 3 buts, ce qui est énorme évidemment. Et puis Lorient ne prend pas de points contre ces équipes-là, donc ça a tendance aussi à creuser les écarts. Il va vraiment falloir vite remonter la pente. D'ailleurs, on disait, le prochain match c'est à Reims, donc à nouveau une équipe qui là connaît un début de saison difficile et qui sera amené aussi à jouer le maintien de 2 points seulement pour les Rémois.
C'est vrai que Reims, vous les avez vus peut-être jouer hier contre Rennes, moi je ne les ai pas trouvés si mauvais, les Rémois.
Ils ont
même été plutôt surprenants. C'est autant Dijon, on peut s'inquiéter pour Dijon, mais Reims, il y a encore matière hein, pour les Rémois. Ils ne sont pas tout à fait dans le rouge encore, enfin, même s'ils sont 19e, mais Moi, j'ai l'impression que c'est un club qui peut revenir, en tout cas, Reims.
Reims, on en parlait hier, il y a eu aussi la Coupe d'Europe qui a pu jouer aussi dans leur préparation. On l'avait vu aussi l'année dernière avec Strasbourg qui a eu un petit peu de mal à démarrer. Ils ont été éliminés assez tôt, hein. Ils n'ont fait que deux tours de Coupe d'Europe, les Rémois, donc ça va peut-être s'améliorer, mais on espère que leur première victoire n'interviendra pas, évidemment, contre Lorient. Alors, on connaît la date du match, mon petit Gaëtan, c'est le samedi 17 octobre à 17h.
Exactement, à 17h, Lorient qui jouera encore le samedi à 17h le week-end suivant contre l'Olympique de Marseille avant de se déplacer à Dijon la semaine suivante. Donc voilà, il y a trois matchs qui arrivent et dans ces trois matchs-là, il y a quand même deux équipes contre lesquelles il faudra, dans un premier temps, pas perdre, au moins mais pas au, perdre. Moins, ouais. au moins décrocher une victoire sur ces deux matchs.
Et puis il y a Dijon après, hein, le Dijon-Lorient, c'est ça, ouais. Celui-là, il va valoir très très cher, je pense, pour se lancer dans cette saison. On termine la page Lorient avant de passer à la Coupe de France et notamment à l'équipe de Tagarine qui fait quelque chose d'extraordinaire. On revient déjà sur Brest parce que juste après avoir terminé la page Mercato, Brest a officialisé l'arrivée qui était attendue, hein, c'était dans les plans de Lilian Brassier, le latéral gauche de Rennes qui est prêté, il me semble, à Brest. Il était prêté l'année dernière aussi à Valenciennes. Ça a mis un petit peu de temps pour Brassier parce que Rennes a eu des problèmes avec ses latéraux gauches. Rennes s'est renforcé avec l'arrivée de Dalbert en provenance de l'Inter Milan. Donc ça a libéré la place pour Brassier au Stade Brestois. Et du côté de Lorient, vous l'entendrez peut-être dans la rubrique de demain, mon cher Gaëtan.
Bien sûr.
Pas d'arrivée. En tout cas, on a posé cette question à Pélissier.
Il y en a une, mais voilà, qui n'était pas, qui c'est pas un joueur qui jouera souvent avec l'équipe première. C'est Thomas Kaliens, gardien du Stade Malherbe Caen, qui arrive cette saison. Il s'est engagé pour une saison plus une en option, donc il intègre le pôle des gardiens, comme l'appelle le FC Lorient. Le pôle des gardiens, c'est donc le troisième gardien de l'équipe première, puisqu'on sait qu'il y a déjà Paul Nardi, Mathieu Dreyer et Teddy Bartouche. Petite pause, et puis on revient tout de suite avec le foot amateur. Et l'AS Tagarine notamment.
Envie de vous meubler.
Le magazine des déchaînés du football en direct sur Radio Bonheur. 19h46, on a parlé de Brest, hein, du bel exploit de Brest. On a parlé de Lorient, nous allons parler de Guingamp dans quelques minutes, mais auparavant, on parle des clubs amateurs.
Oui, et en national, on va commencer par l'US Concarneau qui recevait le leader vendredi soir, enfin l'un des co-leaders désormais après cette journée, c'est le Sporting Club de Bastia qui était en déplacement à Guipériou dans des conditions météorologiques apocalyptiques. Gros vent, grosse pluie, la tempête sur Guipériou, mais un match tout de même plutôt plaisant pendant une bonne heure de jeu. Et un match nul, un but partout. C'est Félix Ley qui a ouvert le score à la 19e pour les Concarnois avant l'égalisation de Sébastien Da Silva juste avant la pause pour les Bastiais. Problème, toujours pas de victoire à domicile pour Concarneau en 4 matchs, 3 matchs nuls et une défaite. La réaction de l'entraîneur et l'analyse de Stéphane Lemignan.
Cette égalisation, c'est dommage qu'on tienne pas jusqu'à la mi-temps. Il reste pas grand-chose. Après, on a fait un match avec l'énergie qui nous restait. Ouais, je pense que voilà, faut oublier que l'équipe elle a joué quasiment une heure à 10 mardi. On s'est retrouvé à vouloir marquer ce deuxième but, mais de façon désordonnée. J'ai décidé de jouer avec deux vrais attaquants. Sa combinaison n'a pas été très très bonne. Deuxième temps, on n'a pas bien attaqué. On n'a pas réussi à trouver la liaison. On était un peu coupé en deux avec quatre joueurs offensifs et puis 4 et 2 minutes de terrain. Donc ça fait. C'était assez facile à défendre pour Bastia.
Bon, ils n'ont pas trouvé les ressorts hein, en deuxième mi-temps, les Concarnois. Alors, il y a eu un but d'Alexandre Vincent, marqué, refusé pour une position de hors-jeu. Et en revoyant les images, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de hors-jeu. Donc, Concarneau aurait pu prendre l'avantage sur cette situation. Le bon point.
FFFTV, il faut la vidéo. Là,
ah ben, c'est grâce à FFFTV qu'on a revu les images, justement.
Ouais,
mais le bon point, c'est le premier but aussi dans ce championnat du jeune Félix Ley, un jeune joueur passé par la réserve du Stade Brestois, qui est arrivé il y a un an du côté de Concarneau. Il a inscrit son premier but en national, lui qui était un petit peu inattendu dans ce début de saison, mais qui empile les matchs. On écoute Félix Ley, le buteur.
Et sur le moment, ça va vite. Hein. Ouais. Je réfléchis pas trop, tu as la balle, tu es tout seul. Bah.
Tu fais le bon geste.
Voilà, c'est ça, hein, ça passe, ça passe. Ouais. Franchement, le moment où j'ai vu que j'étais tout seul, j'ai un petit... Je fais quoi? J'avance, je frappe. Et au final, voilà, j'ai pris la décision de frapper. Ça rentrait, tant mieux. Hein. Ouais, c'est de la joie. Hein. Je vais un peu partout, je regarde les autres. On pense au passer aussi, c'est important.
Il avait la banane après ce,
ah, il était
ce
content.
Match.
Hein. Il était content pour son premier but en national contre le Sporting Club de Bastia, Félix Ley. Des Bastia qui, eux, ben, ont malgré tout arraché un bon point aussi à Concarneau. Même si en fin de rencontre, c'est vrai, ils auraient peut-être pu gagner ce match. Mais au vu des conditions climatiques, c'est quand même un bon point. Et c'est ce que retient l'entraîneur du Sporting, Mathieu Chabert.
Je suis content de repartir avec le point du match nul, quand même. Parce que ça, c'est des matchs. Il y avait tout qui était... Ça sentait le match piège à plein nez. Il faut savoir que depuis que j'entraîne en national, c'est la première fois que je prends un point ici. Donc ouais, j'ai vaincu le Signanzé. J'ai pensé quand vous meniez 1-0. Ouais, quand on menait 1-0, je dis c'est pas possible, je vais pas encore repartir sans quelque chose.
Oui, ils sont repartis avec un point cette fois, les Bastia, et surtout Mathieu Chabert qui avait perdu ses deux premiers déplacements à Concarneau lorsqu'il entraînait l'AS Béziers. Du côté des autres résultats, le Stade Briochin a été tenu en échec sur sa pelouse par le Sporting Club de Lyon, qui est toujours d'ailleurs à la recherche de sa première victoire, hein, Lyon, dans ce championnat. Score final, un but partout. Pourtant, Saint-Brieuc avait ouvert le score à la 77e par Zana Allé avant que Lyon n'égalise dans la foulée par Botelia, je crois, qui a marqué sur oui. Ce match, c'est ça. Au classement, Bastia, le Sporting est à égalité.
Vous avez vu ce match de Saint-Brieuc, hein, pardon.
Saint-Brieuc, ah oui,
ah bah
oui. Bah alors.
Compliqué comme match. C'est, enfin, les premiers matchs de Saint-Brieuc que j'ai vus, on sentait une équipe briochine très dangereuse offensivement, tout du moins sur la première mi-temps. Là, on les a sentis beaucoup plus timides. Aucune frappe tentée quasiment pendant cette première mi-temps, et puis il y a eu la frappe d'aller à l'entrée de la surface de réparation qui rentre, et c'est quasiment une des seules frappes lointaines en fait de Saint-Brieuc, et j'ai un petit peu l'impression de retrouver l'en avant de Guingamp quand ils étaient en Ligue 2, non mais il y a une quinzaine d'années, où il fallait absolument que ça soit le joueur qui rentre avec le ballon dans le but, et c'est un petit peu ce qui se passe, je trouve, à Saint-Brieuc du côté offensif.
Ouais. Surface, plus que
puis après, le but qui vient juste après l'ouverture du score, je pense que c'est clairement un manque de concentration défensif.
Ah oui. Petite faiblesse après l'ouverture du score.
Et l'information du jour, quand même, du côté de Saint-Brieuc, en cette fin de mercato, qui a été révélée par le Télégramme, Christophe Carbrat, ancien défenseur de Guingamp, devrait s'engager cette semaine. L'année prochaine, il sera en fin de contrat.
On en discutait avec Gaëtan avant l'émission. On est un petit peu surpris de l'arrivée d'un défenseur du côté de Saint-Brieuc. Ça tentait plutôt à un renforcement offensif.
Ouais, mais parce qu'ils ont du mal à marquer quand même.
Ouais, mais ça va peut-être ça va peut-être aider quelquefois. On a des clubs qui n'arrivent pas justement à marquer et à se créer suffisamment d'occasions parce que derrière il y a une certaine appréhension.
Pourtant, de ce qu'on voit, Saint-Brieuc défensivement, c'est plutôt pas mal.
C'est
plutôt
solide. Ouais, bon, avoir un joueur
avec un milieu de terrain comme
c'est pas mal quand même pour Saint-Brieuc.
Oui, mais pour regarder défensivement, moi je trouve ça plutôt propre. Hein. Même au milieu du terrain, les milieux récupérateurs travaillent énormément. Enfin, personnellement, j'aurais
après,
pas.
La saison va être longue aussi.
Aussi
vous avez l'opportunité de faire Carbrat quand vous êtes un club de national.
Ouais,
ce qui n'était peut-être pas possible de faire il y a deux mois. Parce que peut-être que Carbrat cherchait encore en Ligue 1, Ligue 2 ou à l'étranger. Là, franchement, si cette opportunité arrive.
Ah oui, c'est sûr, il faut prendre. Mais
c'est vrai que, bon, notamment du Tournier, il faudrait que du Tournier aussi se mette au diapason. Je crois qu'il a toujours pas marqué depuis qu'il est arrivé à Saint-Brieuc.
Moi, personnellement, j'attendais plutôt un Henri Dufeuille en numéro 9 ou 9,5. Mais bon.
Dufeuille, ça, je connais pas. Dufeuille,
vous connaissez. Voilà, c'est peut-être Henri Dufeuille alors.
Voilà, c'est mieux.
En tout cas, au classement, le Sporting Club de Bastia et Laval sont en tête avec 14 points. Avranches 3e avec 13 points. Concarneau est 9e de son côté avec 9 points. Un petit point de plus que le Stade Briochin qui est 11e. Et en bas de tableau, referme la marche pour l'instant Bourg-en-Bresse, Pérona, Villefranche, le Sporting Club de Lyon et Annecy. En sachant que ce soir, Annecy, justement, se déplace sur la pelouse d'Orléans. Voilà pour cette page consacrée au National. Une petite page de pub. Et puis on revient tout de suite avec la Estagarine. À tout de suite.
La paix. Pour Mélanie, ce qui compte dans un escalier, c'est qu'il soit solide. Mais pour Maxime, c'est de pouvoir s'y amuser. Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Pour l'anniversaire La Paire jusqu'au 26 octobre, profitez de moins 20% sur tous les escaliers. La Paire, la qualité réservée à tous. Conditions sur lapaire.fr.
C'est le retour d'Amazon Prime Day. Les 13 et 14 octobre, profitez de 2 jours de vente flash exceptionnelle sur les produits que vous aimez. 2 jours pour choisir votre nouveau mixeur, trouver une robe pour votre maman ou même faire vos achats de Noël à l'avance. Que ce soit pour vous, votre famille ou même votre chat, vous avez 2 jours pour économiser sur l'électronique, la maison, la mode et bien plus encore. Ne ratez pas Amazon Prime Day les 13 et 14 octobre. Rejoignez Amazon Prime pour en profiter. Amazon Prime est un abonnement payant. Voir tarifs et conditions sur amazon.fr/prime.
Que vous soyez une petite ou une grande entreprise, l'énergie reste au cœur de votre activité. Marianne Leribler, responsable du département offre de fourniture chez EDF Entreprises, nous parle dans un instant par téléphone du contrat flexible dédié aux professionnels.
On retrouve Soyons Proactifs avec Cerise de Groupama.
Et donc 2 ans plus tard, le propriétaire constate des micro-fissures sur sa façade.
Oui, c'est ça. La fissure n'est pas généralisée.
Et c'est justement ce type de problème qui ne relève pas de la garantie décennale classique.
Tout à fait. Et c'est pour cette raison que chez Groupama, nous pouvons garantir tous les désordres sur les ouvrages que vous réalisez, même les plus petits. Vous soutenir, vous et tous ceux qui participent à la relance de l'économie locale, c'est comme ça qu'on voit les choses chez Groupama. Groupama. La vraie vie s'assure ici.
Info sur groupamapro.fr. Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat.
Ouais, salut Margot. C'est la fonction affine f de x égale à x plus b. J'aimerais juste comprendre où en est notre relation. Hier, on s'est croisés dans un exercice, tu m'as à peine reconnu. Sympa. Après toutes les équations qu'on a résolues ensemble, c'est un petit peu dur à encaisser.
Parce que les connaissances, ça s'oublie vite, Acadomia propose des stages de vacances en petits groupes de 4 élèves en moyenne pour un travail approfondi et personnalisé dans les matières principales. Renseignements sur acadomia.fr.
Acadomia, ils ont tout pour réussir.
Garder des vieux balais d'essuie-glace sur un pare-brise neuf, c'est pas sérieux. En ce moment chez Carglass, quand vous faites réparer votre impact ou remplacer votre vitrage, les balais d'essuie-glace avant Bosch sont gratuits. Vous imaginez ? Gratuit. Une promo comme ça, faut pas la rater. Alors profitez-en, c'est jusqu'au 17 octobre.
Carglass répare, Carglass remplace.
Voir conditions sur carglass.fr.
Vous voyez, Franck Ferrand, je pense que le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont la qualité et ceux qui ont le prix.
Mais non, Chantal, pas du tout. Chez Akena, ils ont le rapport qualité-prix. Pour leur pergola comme pour leur véranda, ils pensent à tous les budgets sans oublier la qualité.
Ah, ne me faites pas dire si je ne l'ai pas lu, Ferrand. Chez Akena, ils sont hors catégorie.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Sueur nocturne, bouffée de chaleur, fatigue, de nombreux déséquilibres touchent les femmes à la ménopause. Manaï Ménopause est la solution d'origine naturelle sans hormones pour se sentir bien. Retrouvez toute la gamme Manaï en pharmacie et parapharmacie. Manaï, une marque VitaVea. Pour votre santé, limitez les aliments gras salés sucrés.
Ceci est un message de l'établissement français du sang. En raison de la Covid-19, le niveau des réserves de sang est exceptionnellement bas. Malgré la crise sanitaire, nous avons toujours besoin de 10 000 dons de sang par jour. Si vous ne pouvez pas donner votre sang dans votre université ou votre entreprise, venez dans l'une de nos maisons du don ou dans une collecte organisée dans votre commune. Nous comptons sur vous. Pour savoir où donner, rendez-vous sur l'appli mobile Don de sang.
Oh là là, c'est la folie, toutes ces feuilles mortes dans le jardin.
Oh, m'en parle pas, et regarde l'état des haies. Oh, c'est la folie.
Ah non, mais c'est la folie, on va jamais y arriver.
Ouais, c'est la folie.
Hé, mais regarde, c'est la folie.
Quoi ?
C'est l'automne en folie chez Style. En ce moment, la seconde batterie pour outils de jardin est à moins 50%. Et il y a encore plus d'offres de folie chez les revendeurs. Ah, c'est dingue.
Attends, tu veux dire, c'est la folie ?
Oui, bah c'est ce que j'ai dit.
Voir conditions de l'offre chez votre revendeur Style agréé ou sur style.fr.
C'est la tuile. C'est notre anniversaire avec Honoré. Mais au bout de 22 ans de mariage, je n'ai plus l'idée cadeau, moi.
Ça tombe bien. Ce mois-ci, c'est Discount aussi, fête ses 22 ans. Retrouvez de nombreux articles en promotion. Maison, loisirs, high-tech, vous trouverez forcément son bonheur.
Extra, ça. Et pourriez-vous nous livrer à domicile?
Bien sûr, Marie-Camille. En plus, la livraison est offerte des 25 euros d'achat.
Offerte? Honoré, c'est le pompon.
C'est Discount.
Voir conditions sur le site.
C'est le magazine des déchaînés du football en direct jusqu'à 20h30. Hein, nouvel horaire avec cette rentrée. On est ensemble pendant 1h30 de 19h à 20h30. On continue de parler des clubs amateurs et de la Coupe de France. Quatrième tour de la Coupe de France ce week-end.
Ouais, et avant d'avoir l'entraîneur de l'AS Tagarine qu'on aura juste après les infos. Finalement, on va faire un petit point sur les résultats de ce quatrième tour. Les principaux résultats avec Saint-Malo qui a battu Grasse 5-0. Les Costa-Ricains de Grasse. Victoire aussi de Guichin sur la pelouse de Guémené-Scorff 5-0. Victoire de Beau qui avait sorti le Stade Pontivien au tour précédent. Beau, club de R3, a éliminé un autre club de R3, les Bréchois. Club de R3, victoire 2-1 avec que des buts sur penalty dans cette rencontre. Victoire également de la Saint-Colomban-Locminé face aux Enfants de Guerre ou encore de Noyal-Pontivy contre Guipry-Messac. Et puis dans le choc côté Morbihanais, eh bien Van a éliminer la GSI Pontivy 2-1. C'est pourtant les Pontiviens qui avaient ouvert le score, mais les Vantais ont renversé la vapeur.
Pontivy qui sera l'adversaire de Dinan la semaine prochaine pour le choc des deux leaders de National 3. Ça sera au Clos Gastel à Dinan. Dinan qui s'est qualifié aussi pour le cinquième tour, non sans quelques toutes petites frayeurs, puisque Dinan était mené à la pause à Saint-Gilles. Finalement, Dinan s'est imposé 3-1. Quelques autres résultats aussi dans le 22 et dans le 35, victoire dans le choc de National 3 de Fougères, le Fougères de Pierre-Yves David contre la Rentea 2-1, victoire de Planquette-Arguenon au pénalty à Tinténiac-Saint-Dominique, victoire au pénalty aussi de Plérin-Montauban de Bégard contre l'Ermitage, du FC Aubinois contre Langueux et du club de Saint-Brieuc-Ginglin contre le Cob. C'était le derby de Saint-Brieuc. Dans le reste des résultats, qualification de Loudéac, Dinard, Cléder contre Cervelle-Lagnon, de Liffré contre la Gouinière et de Lagnon, club de N3 qui a gagné 4-1 à Mélac. Tirage au sort mercredi, me semble-t-il, avec l'entrée des clubs de National, Concarneau et Saint-Brieuc. On se retrouve juste après les infos avec donc l'interview qui a été décalée de nos amis de Tagarine, parce que comme ça, voilà, on va avoir un petit peu plus de temps pour parler de ce surprenant club de D4 de district, même niveau que Rucabé, mon cher Sébastien.
Oui, mais je pense que ça joue un petit peu mieux.
Un tout petit peu mieux. À tout de suite.
L'AS Tagarine, c'est à Étables, sur-mer dans les Côtes d'Armor. Les déchaînés du football seront de retour juste après les infos sur Radio Bonheur. À tout de suite.
Bonsoir à tous. Le bilan des intempéries meurtrières qui ont frappé le sud-est de la France et le nord de l'Italie vendredi se porte à 7 morts au total désormais dans les deux pays. Dans les Alpes-Maritimes, 4 corps ont été retrouvés pour l'heure, mais le bilan pourrait s'alourdir, de nombreuses personnes étant portées disparues. Alors que Jean Castex et Gérald Darmanin se sont rendus sur place ce week-end, c'est Emmanuel Macron qui prépare son déplacement. Le président m'a annoncé sa venue prochaine, c'est ce qu'a écrit sur Twitter le député Éric Ciotti. Pour l'heure, le bilan s'élève à 3 morts côté français avec la découverte de 2 dépouilles supplémentaires ce lundi à la mi-journée, selon Nice Matin. Les centres commerciaux se disent prêts. Le Conseil national du secteur assure que la jauge de densité, qui prévoit 4 mètres carrés par personne, a déjà été pratiquée lors du déconfinement. Cette mesure nous convient tout à fait, car nous l'avons déjà pratiquée au moment du déconfinement. C'est ce qu'a donc assuré le délégué général du Conseil national des centres commerciaux. Il y avait d'ailleurs eu à l'époque de très nombreux contrôles. C'est ce qu'il a également déclaré. Et pas une seule infraction n'a été constatée sur l'ensemble du territoire. Fin de citation. Les enquêteurs sur la piste d'un probable nouvel acte de cruauté sur des équidés. 2 ânes ont été découverts morts et mutilés par leur propriétaire dimanche à Chambon-sur-Dolore dans le Puy-de-Dôme. Selon une source judiciaire, une enquête a été ouverte, confiée aux gendarmes, et une autopsie devait avoir lieu parallèlement à des analyses toxicologiques pour tenter d'identifier la cause des décès. Selon le procureur de la République à Clermont-Ferrand, l'hypothèse première est celle d'une agression et de mutilation volontaire, même si celle d'une mort naturelle n'est pas complètement exclue à ce stade. À l'étranger, il s'est offert un quasi-bain de foule avec ses partisans dimanche derrière les vitres des voitures officielles, mais le président américain Donald Trump n'est pas encore sûr de sortir de l'hôpital ce lundi. La décision de faire rentrer Donald Trump à la Maison-Blanche sera prise plus tard dans la journée, c'est ce qu'a fait savoir son chef de cabinet, Mark Meadows. Et puis en tennis, à noter la qualification de Novak Djokovic pour les quarts de finale de Roland-Garros. Le Serbe numéro 1 mondial s'est débarrassé de Khachanov en 3-7.
Écoutez Radio Bonheur à Saint-Brieuc sur 99.1, à Lorient sur 93.3, à Guingamp sur 90.1, à Lannion sur 99.0, à Châteaulin sur 104.0, à Carhaix sur 99.0, à Saint-Malo sur 96.7 et à Brest sur 95.9. Les déchaînés du football, 20h05. Alors on ne parle pas de Guingamp tout de suite parce qu'on a pris un petit peu de retard. Gaëtan, on va passer maintenant à cette Coupe de France avec la AS Tagarine, le club d'Étables-sur-Mer.
Et avec Antoine Gléron, l'entraîneur de la AS Tagarine qui est avec nous. Bonsoir Antoine.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir. Et bravo.
Et bravo, parce que vous avez réalisé un superbe exploit hier. On rappelle la AS Tagarine, club de D4 qui a éliminé...
C'est la plus petite division qui
joue. C'est la plus petite division qui a éliminé un club de D1, Saint-Georges de Chesnay, victoire 3-2. Un coup d'œil sur le scénario, c'est Le Potier qui ouvre le score pour la AS Tagarine à la 51e. Égalisation d'Auchet pour Saint-Georges de Chesnay à la 82e. Saint-Georges de Chesnay qui prend l'avantage à la 86e par Goujon. Mais la AS Tagarine à la 88e égalise. Et avec un pénalty transformé en deux temps, s'il vous plaît, dans le temps additionnel, eh bien, remporte sa qualification et se qualifie pour la première fois pour le cinquième tour de la Coupe de France. Terrible exploit. Comment on se sent, Antoine, 24 heures après cet exploit-là?
La voix un petit peu cassée. Je vous cache pas que c'était fort en émotion. Super content aussi parce que l'objectif est plus que rempli. Et puis, je vous cache pas qu'aussi, avec le scénario, ça rajoute un petit peu... Ça rajoute un petit peu d'émotion supplémentaire. C'était vraiment, vraiment intense hier. Et puis voilà, un scénario, comme vous l'avez dit, assez extraordinaire où on est mené à la 86e. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui nous voyait passer. Et puis, on arrive à retourner ce match complètement fou.
Ah, il ne fallait pas trembler hein, sur le pénalty, même si ça a failli être le cas, parce qu'il a failli le marquer en deux temps.
C'est ça, un pénalty marqué en deux temps. Moi, de mon point de vue, je la vois sur la barre directement. Et après, je vois les filets trembler et je vois tout le monde courir. Donc, je me dis que c'est bon signe. Sur le moment, Saint-Georges réclame une règle qui est peu connue, où le pénalty est directement tiré sur la barre, mais là on s'aperçoit que c'est le gardien qui la propulse sur la barre, donc voilà, il n'y a pas de souci, mais c'était fort en émotion en effet.
Alors ce qui est encore plus incroyable, encore plus fou, c'est que le club de l'AS Stargard a été créé cette année, je crois que c'est à la fin du confinement d'ailleurs qu'il a été créé. Racontez-nous comment que ça s'est passé, cette création de club.
Exactement, on est tous issus du coin, que ce soit de Trégueux, de Plérin, de Binic et plus particulièrement du Stade Briochin. On a tous fait nos classes de jeunes, pour la plupart on a fait nos classes de jeunes là-bas, et à la sortie du confinement on avait tous plus ou moins envie de reprendre une activité sportive, le foot, puisque c'est tout ça qui nous lie depuis quelques années. Et on s'était dit qu'on avait envie, voilà, de créer un club parce qu'on se voyait pas aller dans un club qui nous corresponde pas forcément au niveau des valeurs. Donc on a décidé de créer notre propre club. Pour cela, il nous fallait un terrain. Donc on a cherché les terrains disponibles dans le coin, et puis on est tombé sur celui des tables. Donc voilà, petite référence également à un club qui existait auparavant, qui était l'US Stargard. Du coup, nous on transforme ça, et c'est l'association sportive Stargard actuellement. Et puis on est bien du coup suivi par la mairie qui nous soutient dans ce projet. Donc voilà, des anciens du Stade Briochin pour la plupart qui recréent quelque part une équipe de copains, d'amis, de cousins autour de valeurs communes et du football.
Une équipe dont vous êtes l'entraîneur, Antoine, un petit peu par défaut. Je crois que c'était pas forcément prévu en début de saison.
Exactement, c'était pas forcément ce qui était prévu. Entraîneur malgré moi, je me suis blessé malheureusement sur le premier entraînement, où on avait la présence de Raymond Domenech en plus sur ce premier entraînement. Donc je me suis blessé, et un petit peu par défaut, voilà, je me retrouve entraîneur, mais c'est quelque chose de positif, je pense, parce qu'on s'était pas penché sur la question. On partait plutôt sur un système d'autogestion sans entraîneur fixe, et on se rend compte que arriver à des tours comme ça, avancer de la Coupe de France, c'est bien d'avoir un entraîneur quelque part sur la feuille de match.
Antoine, une question de Pierre pour vous.
Oui, bonsoir. J'ai une question par rapport au championnat. Donc vous avez créé ce club, vous êtes en D4 de district. Vous avez gagné 17-2 sur la première journée la semaine dernière. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous sentir un peu trop à l'étroit cette saison dans ce championnat ?
Si, on avait quelques doutes par rapport à la D4, mais que faire d'autre? On pouvait pas non plus demander à commencer en D1, sachant qu'on avait, nous, quelque part, on avait absolument rien prouvé sur le terrain. Pour la plupart, on reprenait le foot depuis quelques années. Donc c'était compliqué de demander une dérogation à ce niveau-là. Compliqué également parce que d'un point de vue de légitimité, comment faire comprendre à des clubs qui sont en D3 ou en D2 que nous, en création de club, on arrive à leur niveau? Donc voilà, on respecte les règles, on prendra les matchs de toute façon les uns après les autres, mais on savait que la coupe c'était vraiment le challenge de cette année, donc on essaye de jouer cette coupe à fond pour qu'elle dure le plus longtemps.
Saint-Brieuc au cinquième tour?
Eh ben on l'espère, en tout cas moi je l'espère, ça serait vraiment top. On sait qu'on n'ira pas au bout de toute manière de cette compétition, donc quitte à sortir, autant sortir avec les honneurs, et puis pour la belle histoire, Saint-Brieuc, ça serait sympa.
Ouais, parce que vous êtes, vous l'avez dit, beaucoup d'anciens griffons dans cette équipe. D'ailleurs, ce qui est assez surprenant dans ce club, c'est que je crois que c'est l'attaquant qui est également le président, un milieu de terrain qui est également vice-président. En fait, chacun a pas mal de rôles à gérer dans ce début d'aventure.
Exactement, parce qu'au-delà de l'équipe, c'est une association avant tout qu'il faut créer. Donc il y a des rôles à se définir, mais voilà, notre passion c'était vraiment le foot, donc on voulait à la fois avoir cette casquette de dirigeant pour la partie administrative, et on avait surtout hâte que la partie sportive prenne le dessus. Du coup voilà, maintenant on essaye de gérer le club du mieux que possible, et on essaye de jouer également du mieux que possible.
Eh bien, pour l'instant, ça vous réussit, Antoine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de.
J'ai juste une dernière question, mon petit Gaëtan. Je suis désolé. Je me posais cette question-là en vous écoutant parler. L'objectif à moyen terme de Stargard, vu qu'effectivement vous devriez ces prochaines années grimper en niveau, c'est quoi? Dans 3, 4, 5 ans?
C'est vrai que l'objectif à court terme, c'était voilà de créer ce club. C'est déjà quelque chose de sympa, d'aller loin en Coupe de France, et puis bien sûr de monter plus rapidement sur ces échelons de district. Après, à moyen terme, on s'est pas vraiment posé la question. Je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait que ça serait bien que le club perdure. On sait qu'on aura tous un petit peu de mobilité professionnelle, d'études, de voyages. Donc on sera pas tous là à 100%, mais on aimerait bien faire perdurer le club et que voilà, des gens nous rejoignent pour que l'aventure continue le plus longtemps possible.
C'est ce qu'on vous souhaite.
Évidemment.
Antoine, pour cette aventure, on l'a dit, le tirage c'est mercredi, hein, a priori, pour le cinquième tour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Antoine, ce soir sur Radio Bonheur.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Et peut-être prochain tour, si l'aventure continue.
Oui. Eh bien, je vais le faire.
Merci, bonsoir.
Merci beaucoup.
Merci, bonne soirée. Au revoir.
Bonsoir.
Ouais. Eh ben, je suis bien content, les amis, de ne pas être dans leur groupe en D4.
Ouais, ça va pas être facile pour les clubs.
Parce qu'on a déjà, groupe, ouais. On a déjà le FC Fréhel qui domine la poule pour l'instant. Alors, si en plus on avait eu nos amis de l'Estagarine, là c'était 15, 20, 30, 0. On aurait battu les records.
Non, mais le camion Radio Bonheur devant le but. On met deux gardiens.
Je sais même pas si ça on parle de Guingamp, messieurs. On parle de Guingamp parce qu'on va être sérieusement en retard si ça continue. On parle de Guingamp. Guingamp en difficulté à nouveau, je serais tenté de dire, dans ce championnat de Ligue 2. Est-ce que Guingamp a réellement réussi à trouver son rythme depuis le début de la saison? Je n'en suis pas sûr non plus, malgré des apparences trompeuses avec deux victoires consécutives. Mais là, on se rend compte avec le déplacement à Dunkerque qu'il y a encore beaucoup de travail dans ce club. Hein.
Oui, comme on a dit pour imager ce week-end avec Guingamp en ce moment, depuis des mois, un petit peu même des années maintenant, c'est un pas en avant, deux en arrière. Dès qu'on commence à avoir un peu d'espoir, à avoir une équipe qui montre un bon visage, pas flamboyant dans le jeu, hein, contre Grenoble, on s'entend, mais avec du caractère, de la grinta, des courses, eh bien, tout est tombé en lambeaux à Dunkerque. Donc, quel est le vrai niveau de cette équipe? On le saura peut-être qu'en décembre, janvier, on l'espère. En tout cas, ça s'est mal passé. Samedi à Dunkerque, la faute à la maladresse de Gomis. Peut-être une petite faute de main de Larsen, on y reviendra. En tout cas, voici le résumé de ce Dunkerque-Guingamp.
Ballon de Niakat et Vernbakoto. Déviation de Vernbakoto pour Yannick Gomis. À la lutte avec Ba qui s'est manqué. Est-ce que Yannick Gomis va arriver en premier? Oui, Gomis qui limite le gardien et qui ne va pas marquer. Ça passe à côté pour Yannick Gomis qui avait presque tout bon. Yannick, faut apprendre à marquer les premières, c'est pas possible. Rebocho qui a tenté une aile de pigeon pour dégager, il l'a complètement manqué. C'est revenu dans les pieds de Viala qui a frappé Larsen, auteur de la première parade du match. Son premier tir cadré de la rencontre, les amis. 62e minute, il était temps. Un ballon pour Brunel sur le côté qui est tout seul pour pouvoir centrer. C'est fait, attention, Larsen qui sort des points, c'est pas fini. Tête, but. But de Romil qui met la tête après l'intervention de Larsen. Il a lobé Melo et Larsen sur cette action-là. Pas une énorme sortie hein, de Larsen, pas assez autoritaire. Et du coup, la tête de Joris Romil qui vient lober Larsen. 1-0 pour Dunkerque. Maintenant, Changama et Niakate à la retombée. Niakate qui prend ce ballon. Pourquoi pas frapper de là, six coups. Oh non, il donne un super ballon sur Yannick Gomis qui frappe. Oh non, là, Yannick. Il tire dans la salle Omnisport derrière. C'est un partenaire, Yann Tep qui se propose. C'est un appel en profondeur de Féton qui est servi, qui n'est pas en position de hors-jeu. Féton qui va s'emmener le ballon toute seule. Féton, Pelé, non! Mais quelle occasion manquée par Guingamp. Féton qui avait pris l'ascendant avec son style caractéristique en puissance, le bison Féton qui est passé. Hélas, il n'a pas voulu frapper face au but. Il a senti que Pelé était juste à côté de lui, c'est vrai, mais la passe n'était pas bonne du tout. Après deux victoires, la série s'arrête là donc pour Guingamp. Défaite d'un tout petit Guingamp ce soir face au promu Dunkerquois qui s'est arraché pour gagner 1-0. Guingamp s'est montré ce soir très très loin de ses ambitions.
Ouais, Dunkerque promu en plus dans ce championnat de Ligue 2. Oui. Quand on a du mal contre le promu je vais pas dire en difficulté dans ce championnat, mais enfin quand même, oui. C'est.
Ils sont pas premiers, quoi.
Ils sont pas premiers, c'est pas réjouissant.
Il y a promu et promu, parce qu'on a joué contre un promu il n'y a pas longtemps, Pau, je peux vous dire, ça n'a rien à voir, hein, les deux équipes. Alors oui, peut-être que Pau avait fait un très mauvais match, mais alors c'était pas du tout la même équipe. Il y a un joueur qui m'a émerveillé, je ne sais pas ce qu'il va devenir dans sa carrière, mais le laïcien Leverton Pierre, vraiment au milieu de terrain, d'ailleurs il a été élu homme du match par les supporters dunkerquois. Il a fait la misère au milieu de terrain de Guingamp, c'était d'ailleurs assez inquiétant. De la colère après ce match, évidemment, de la part des supporters, des suiveurs. mais aussi et surtout de l'entraîneur. Mecha Bazdarevic, écoutez la réaction du nouvel entraîneur de Guingamp après ce premier match vraiment manqué de son équipe depuis qu'il est arrivé.
Là, il n'a pas mâché ses mots.
Avec ce qu'on a sur le terrain, ce qu'on avait sur le terrain ce soir, on pourrait faire beaucoup plus et mieux. Quoi. C'est quand même des bons joueurs, des qualités. C'est pas parce qu'on va faire venir Robay qui va changer radicalement notre jeu. Je pense que cette équipe, elle doit faire beaucoup plus et mieux. Voilà. Après, il faut s'arracher, il faut aller chercher cette confiance à travers des bons matchs, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de concentration, plein de choses. Encore une fois, on a raté notre match complètement ce soir. Le match précédent, ça s'est très bien passé, mais ce soir, c'était mou, c'était plat. Voilà. Il manquait encore une fois cette énergie, cette envie d'aller chercher cette attitude de gagnant. Parce qu'en face, c'était quand même une équipe, bonne équipe, mais je pense qu'il y avait des places.
Ah, il y avait de la place pour passer. C'était mou, c'était plat. Voilà.
Ouais, et vous avez entendu, hein, Bazdarevic qui a parlé de Gaëtan Robay. Ça a été officialisé aujourd'hui, cet après-midi, par l'En Avant Guingamp, le prêt du joueur de Lens, auteur d'une belle saison l'année dernière en Ligue 2, qui manquait de temps de jeu en Ligue 1 et qui va donc renforcer l'attaque de Guingamp. Il peut jouer sur les couloirs, il peut jouer devant. Il a surtout été utilisé côté gauche l'année dernière par le Racing Club de Lens. Bon, c'est. Ce qui est terrible, messieurs, c'est qu'on pourrait se réjouir, on pourrait être très heureux de l'arrivée de Robay, qui est quand même un bon joueur de Ligue 2, qui a participé à la montée l'année dernière. Mmh. On a l'impression qu'on peut empiler les noms et n'importe qui depuis 2-3 ans. C'est toujours la même chose. Il y a parfois des bons matchs, des signaux d'espoir, et tout est balayé d'un revers de main une semaine après.
Ouais, c'est...
Moi, je reste sans voix là-dessus. Quoi.
Ça se répète, et j'ai l'impression qu'on fait un peu le même début de saison que l'année dernière. C'est-à-dire que quand Guingamp est capable d'aller chercher, peut-être de recoller, alors bon, c'est que le début de saison, mais de s'installer vraiment peut-être dans les équipes de tête, où il y a toujours une épine qui vient se... Mmh.
Voilà. Ce qu'il y a, c'est que c'est quand même la deuxième saison de Ligue 2. On vient pas d'arriver en Ligue 2.
Ah oui, bon, mais le problème, quel est le problème? C'est qu'il n'y a aucun projet.
Il n'y a pas de stabilité non plus au niveau des entraîneurs.
Quelle ligne a été dressée? Ça, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire. Et c'est ce qu'on disait. Alors, on n'a pas la science infuse. Hein. C'est très dur de diriger un club. On fait sans doute beaucoup d'erreurs. Mais depuis la descente en Ligue 1, quel nouvel élan a été amené? Il y a eu 3 entraîneurs différents. Il y a eu un directeur sportif qui est resté 6 mois. Il y a eu des joueurs qui sont passés à l'appel. On a quasiment changé l'équipe. Changement de président. Et là, on se retrouve aujourd'hui, 5 octobre 2020, pas plus avancé que en mai 2019.
Non, parce qu'il n'y a rien de vraiment dressé. Il n'y a pas de ligne directrice là qui pourrait conduire en avant un peu plus
vers loin. L'avant. Alors, justement,
évidemment, l'objectif, on le comprend entre les lignes, que c'est de monter en Ligue 1. Mais pour monter en Ligue 1, faut construire quelque chose pour arriver à ça.
C'est pas en un été, en plus avec tout ce qui s'est passé à Guingamp, qu'on peut puisse dire on veut monter en Ligue 1. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, il y a eu un changement d'entraîneur, Pierre l'a dit, il y a eu deux changements d'entraîneur, il y a un changement de président, il y a un directeur sportif, on sait pas trop ce qu'il fait, il est là, il est pas là, il finit par être viré. On peut pas avoir la prétention et oser dire qu'on va monter en Ligue 1 avec ça. Enfin, faut être lucide.
Non, en général, pour que quand un club monte, c'est que toutes les planètes s'alignent. C'est
bah voilà,
ce
et
c'est
puis...
Tout le monde va dans le même sens. Là, c'est vraiment beaucoup trop flou.
Et en plus de ça, une montée en Ligue 1, ou même une montée telle qu'elle soit, il faut qu'elle soit préparée la saison d'avant. On l'a vu l'année dernière, c'était loin d'être magnifique. Il y avait encore trop de choses à travailler pour pouvoir espérer monter cette année.
On sent qu'il y a encore beaucoup d'instabilité. Mmh. C'est aujourd'hui, normalement, que doit être scellé le départ de Xavier Gravelaine. On est encore vraiment en pleine phase de... Alors, je sais pas si on peut dire que Guingamp est en phase de mutation ou... En tout cas, est en construction. Ouais, c'est ça, reconstruction.
Il faut pas que ça dure trop longtemps.
Guingamp se cherche, en fait.
Il faut pas que ça dure trop longtemps parce que c'est...
C'est bon de se trouver, quoi.
C'est embêtant pour ce club pour revenir en Ligue 1. Plus on reste longtemps en Ligue 2, plus c'est difficile de remonter en Ligue 1.
Oui, rien que pour attirer des joueurs, c'est compliqué. C'est-à-dire quand ça fait 5 ou 6 ans que vous êtes en Ligue 2, vous n'allez pas recruter des joueurs comme Romao ou je ne sais qui.
Et puis vous vous retrouvez aussi avec à porter des fardeaux, parce qu'on a vu cette information aujourd'hui du Télégramme qui est souvent bien informé. Guingamp s'était positionné sur Manuel Pérez, le milieu de terrain de Lens, sauf que Guingamp n'a pas pu le faire venir parce qu'il y a déjà beaucoup de blessés. Ça c'est pas de la faute de Guingamp, hein. Pierre Riba notamment au milieu, mais il y a des joueurs comme Valdivia qui sont là, qui ne servent plus, ils ne jouent plus, donc ça bouche le chemin. Un joueur comme Fofana qui est revenu de près, qui n'arrive pas, alors qui enchaîne les titularisations, mais qui n'arrive pas à être convaincant sur le terrain. Et du coup, comme ces deux joueurs-là sont là, on n'a pas pu renforcer l'effectif. Donc voilà, ça prouve même que dans la construction de l'effectif, on cherche encore. Mm-hmm. Alors après, peut-être que Valdivia et Fofana vont être deux éléments importants de Guingamp. Beaucoup peuvent en douter. Mais voilà, si on les a, autant essayer de leur donner leur chance. On voit pour l'instant, ça ne marche pas pour Fofana. Mais bon, on attend ce qui va se passer dans la suite du côté de Guingamp. Là, ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, c'est la pause réclame. Et on termine cette émission en parlant évidemment des malheurs guingampais.
On s'intéresse aujourd'hui au contrat flexible EDF pour les entreprises. Marianick Leribler est responsable du département offre de fourniture chez EDF Entreprises. Elle est par téléphone. Bonjour Marianick.
Bonjour.
Alors, le contrat flexible, en quoi ça consiste ?
C'est un nouveau contrat qui s'adapte à l'activité de chaque professionnel, aux évolutions de sa consommation d'électricité, et tout ça avec un seul contrat pour tous ces sites.
C'est bien, mais comment faites-vous ?
Eh bien, chaque année, on vérifie si l'entreprise bénéficie de la puissance et du prix le plus adapté à son activité. Et sinon, nous lui proposons de les ajuster et ainsi de faire des économies sur sa facture.
Ah, effectivement, c'est un vrai plus. Et pour en bénéficier ?
Eh bien, pour bénéficier du contrat flexible, il suffit d'appeler l'un de nos 2000 conseillers basés en France au 3022 ou d'aller sur edf.fr/entreprise.
Merci beaucoup, Marianick.
Business Affaires. Prestation d'optimisation de la facture réalisable uniquement sur les sites équipés d'un compteur communicant Linky après 12 mois de consommation. Plus d'informations sur edf.fr/entreprise. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Bon, on fait quoi pour le divorce ?
Bah, je garde la maison. Et la voiture ?
Pas question. Pas la Polo.
Bah, c'est ma voiture.
Alors, je veux plus divorcer.
Thomas, je t'en prie.
Mais je t'aime.
Thomas !
Quoi ? Si, je t'aime, je te re-aime. Je...
Oh là là.
Non, mais ça arrive tout le temps, ces trucs-là. Allô ? Mon amour ?
On ferait tout pour une Volkswagen. En octobre, 3 mois de loyer offerts sur une sélection de véhicules Volkswagen. Remise pour les 3 loyers suivants, le premier versement. Offre LLD aux particuliers sur 37 mois, si acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur Volkswagen.fr. Porte ouverte les 10 et 11 octobre.
Tout ce qui compte pour vous existe à Prix Leclerc. On peut avoir de très beaux verres et à Prix Leclerc.
C'est vrai, jusqu'au 31 octobre, en collectionnant les vignettes Leclerc, vous pourrez vous offrir 2 verres cristallins de la marque Vivo.
Et je vais être complètement transparent, ces verres sont aussi élégants que robustes.
C'est clair, cette offre est étincelante.
Offre valable jusqu'au 31 octobre. Obtenez une vignette tous les 10 euros d'achat ou pour un produit partenaire acheté. Offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc.
Rendez-vous demain sur C8 à 21h15 pour la soirée Psychodon à l'Olympia. Un grand show avec Yannick Noah, Kenji Girac, Carla Bruni, Amel Bent, Dadju, Claudio Capeo et bien d'autres, tous unis face aux maladies psychiques.
Pour la voiture électrique, j'ai pas décidé. Mais pour la borne de recharge, j'ai pas hésité. Je l'ai fait installer par un artisan qualifié.
Pas par mon mari qui ronfle son canapé !
C'était Easy.
Avec Easy by EDF, faites installer une borne de recharge compatible avec tout type de véhicule électrique. Mes travaux réussis, c'est simple. C'est Easy.
Voir conditions sur easy.edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
C'est le retour d'Amazon Prime Day. Les 13 et 14 octobre, profitez de 2 jours de vente flash exceptionnelle sur les produits que vous aimez. 2 jours pour choisir votre nouveau mixeur, trouver une robe pour votre maman ou même faire vos achats de Noël à l'avance. Que ce soit pour vous, votre famille ou même votre chat, vous avez 2 jours pour économiser sur l'électronique, la maison, la mode et bien plus encore. Ne ratez pas Amazon Prime Day les 13 et 14 octobre. Rejoignez Amazon Prime pour en profiter. Amazon Prime est un abonnement payant. Voir tarifs et conditions sur amazon.fr/prime.
Je m'étais toujours dit que j'arrêterais de fumer le jour où je serai enceinte. Et ce jour est arrivé. J'avais très peur de ne pas réussir à arrêter et j'ai décidé d'en parler à la sage-femme qui me suivait. Elle ne m'a pas du tout jugée, au contraire, elle m'a tout à fait soutenue dans ma démarche. Elle m'a proposé de me prescrire des patchs, des gommes pour que ce soit complètement remboursé. Et aujourd'hui, me voici l'heureuse maman d'une petite Emma, non fumeuse depuis plus d'un an. Comme quoi, pour arrêter de fumer, c'est quand même mieux d'être accompagnée par un professionnel de santé.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Dites donc, Franck Ferrand, j'ai vu qu'Akena vous a séduit avec ses pergolas. Encore une fois, vous faites comme moi, donc.
Mais non, Chantal, c'est simplement que chez Akena, il y a du choix. Vous ne connaissez pas leur large gamme, ça me déçoit de vous. Bioclimatique, toit ouvrant, lames orientables, ouverture intégrale.
Mais si, je les connais. Je les ai toutes vues sur akenapergola.com. Dites donc, c'est qui se prend la grosse tête, non, j'ai l'impression.
En ce moment, Akena recrute des poseurs. Rendez-vous sur akenaveranda.com.
Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault?
C'est bientôt le coup d'envoi des portes ouvertes Renault du 8 au 12 octobre avec la série très limitée Team Rugby. Une équipe affûtée composée de Twingo, Clio, Scénic, Kadjar et aussi Zoé. Servie par des conseillers au meilleur de leur forme. L'enjeu est de taille. Seulement 3700 véhicules à prix imbattable. Alors pour transformer l'essai, rendez-vous en concession. Série très limitée Renault Team Rugby à partir de 9 990 €.
Prix conseillé pour Renault Twingo série très limitée Team Rugby SE 65 selon tarif en vigueur. Offre valable du 5 au 31 octobre. Voir Renault.fr.
Le magazine des déchets et du football pendant quelques minutes encore. Nous parlons de Guingamp jusqu'à 20h30.
Et de cette équipe qui brille par son irrégularité et surtout par son manque de personnalité. Guingamp a subi les événements à tous les niveaux à Dunkerque. Il y a eu un bon premier quart d'heure, mais notamment l'occasion de Gomis n'a pas mis en bonne condition totalement cette équipe. Il aurait fait du bien ce but et à Gomis et à Guingamp. Hélas, ça n'a pas fonctionné et Guingamp s'est retrouvé à courir derrière un adversaire, puis derrière au score, derrière le score. Voici la réaction à ce sujet de Jérémy Sorbon qui disputait son 250e match en rouge et noir samedi.
Vous voyez, je pense. Pourtant, on se le dit, mais on a encore du mal à aller chercher, à presser l'adversaire, à faire mal, à récupérer dans le camp adverse. On l'a fait, mais on le fait que trop peu. On a pu le faire en deuxième mi-temps un petit peu lorsqu'on a pris le but. Donc le fait de dire qu'on était sur la réaction. Et on ne l'a pas fait avant. Donc quand il reste 15 minutes de jeu, voilà, c'est pas suffisant justement pour aller chercher quelque chose. Ça peut l'être, hein, mais on ne va pas toujours avoir la chance pour ça. Mais encore une fois, je redis, on a eu ces occasions-là au début de match, qu'on n'a pas réussi à mettre, et qui, à la fin du match, nous pénalisent certainement. Ça, c'est indéniable, je pense. Mais voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un tout, aussi bien devant que derrière. La personnalité, certainement. Mais on n'a pas retrouvé ce qu'on a pu faire sur le match précédent.
Ah, il y a du travail. Hein. Puis le prochain match, ouais, ce sera contre Auxerre,
Ça va pas être évident, Auxerre non plus.
Ah non, parce que, enfin, Auxerre est en dents de scie, dans ce championnat.
Ils ont gagné 5-1 contre la C Ajaccio. Juste 5-1. Perdu. Oui, mais contre la C Ajaccio, ils avaient perdu le week-end précédent à Toulouse 3-1, alors que Toulouse n'avait pas gagné depuis quasiment un an. Donc bon.
Ouais, c'est en dents de scie Auxerre, mais voilà, ça gagne, ça perd, ça gagne, ça perd. Mais...
Et puis le meilleur match de Guingamp, c'est contre Grenoble, qui était deuxième et meilleure attaque. Donc finalement, où situe la vérité. Dans le championnat de Ligue 2, on ne sait pas. Surtout dans le championnat où il n'y a pas de favoris qui se dégagent, je pense qu'on n'est pas à l'abri de surprises. Un dernier mot, messieurs. Alors, on devait écouter Jérémy Sorbon à propos de Nicolas Larsen, mais on entendra ça dans la rubrique de mercredi, parce que demain, on fera une rubrique un petit peu sur le mercato. Larsen et Gomis. On dit souvent que pour monter, il faut un bon gardien et un bon attaquant, en tout cas deux joueurs efficaces. Là, force est de constater que ce sont deux maillons faibles sur lesquels on peut émettre des doutes dans ce début de saison.
Bah, même deux maillons faibles, hein. Clairement, Larsen, il fait perdre combien de matchs, Gaëtan les a comptés? Il y en a 3, 4.
Pas
directement, mais
il fait plus perdre 2 points qu'il n'en rapporte.
Voilà, c'est ça pour l'instant.
C'est ce qui est dommageable. Alors que la semaine dernière, on soulignait justement qu'il restait sur deux matchs sans concéder de but, qu'il avait été certes pas mis rudement à contribution, mais que sur ce qu'il avait eu à faire, il avait été rassurant.
Il y avait une intervention décisive au bout de 2 minutes, hein, qui avait lancé son match et lancé le match de l'équipe contre Grenoble. Il faut
donc
s'en souvenir aussi.
C'est assez pour moi étonnant parce que finalement on a l'impression que l'intervention de samedi est assez plus simple à faire que celle que contre Grenoble. Et
elle est pas compliquée en soi, hein.
Alors voilà, il y a peut-être un manque de communication aussi avec les défenseurs quelque part.
Là il n'y a pas forcément de défenseur à voir, je veux dire, il monte sur l'attaquant, il prend le ballon à deux mains, si l'attaquant le touche il y a faute et il le sait très bien. À un moment donné, il faut être intelligent. Surtout,
je trouve que, bon, il n'a pas eu beaucoup d'occasions à arrêter, hein, Larsen, depuis qu'il est là, mais juste avant le but, il fait une parade. Moi, là où ça m'inquiète vraiment, c'est les sorties aériennes. C'est vraiment là, déjà à Nancy, les deux buts, c'est comme ça. Ouais. Il a manqué une sortie aérienne aussi sur en première période contre Dunkerque.
Alors que voilà, contre Grenoble, ça avait été plutôt rassurant à ce niveau-là.
Oui, c'est ça, c'est très étonnant. Et puis Gomis, qui fait preuve d'une maladresse très très étonnante. Il en est le premier à souffrir, hein, pour avoir échangé un petit peu avec lui.
Ça m'étonne pas, mais
Fait les efforts, mais là, ouais, il manque deux occasions énormes.
Plus flagrante, c'est quand le gardien est même plus dans ses buts, quoi.
Ouais, on
sent je suis pas à droit devant le but, mais au moins on la cadre.
Il veut ajuster après, au mieux, quoi, vraiment.
Il veut ajuster, ouais, parce qu'il y a le défenseur qui arrive sur la ligne et il la met ras du poteau.
Au pire, c'est repris par le défenseur et là on se dit, bah, bon retour du défenseur. Mais il faut la cadrer, je dis, il est à 20 mètres, il n'y a plus de gardien, c'est un joueur pro.
C'est aussi signe qu'on se pose trop de questions des fois quand on est footballeur à ce moment-là.
Donc prochain match.
5-6 buts, hein, Gomis.
Mmh. 20h31, prochain match des Guingampais, on l'a dit, donc dans deux semaines, un match décalé, ça ne sera pas le week-end, mais le lundi soir à 20h45. Du coup, on enchaînera le magazine des déchaînés du football avec ce match contre Auxerre pour les Guingampais. Et puis on retrouvera le week-end prochain nos clubs de Lorient et de Brest pour des fortunes diverses dans deux semaines, déplacement à Nantes, hein. Petit déplacement pour les Brestois.
Nantes qui devrait accueillir Jean-Kévin Augustin, ça c'est une belle surprise, l'ancien de Paris et de Leipzig qui devrait arriver à Nantes aujourd'hui.
Et déplacement également pour les Merlus à Reims, on l'a dit tout
exactement
à l'heure.
Exactement.
Voilà, donc attention surtout à Lorient, moi j'ai peur pour ce club, il faut vraiment ne pas perdre à Reims, ça sera dans deux semaines en direct sur Radio Bonheur. Merci à tous, et merci.
Juste
messieurs.
Avant de se quitter, je tenais à souhaiter un très joyeux anniversaire à notre Willem national.
Ah oui, quand même.
Et international même.
International. Donc joyeux anniversaire.
Et à Christophe Pélissier au passage, on l'oublie pas.
Oui, aussi.
Bonne soirée.
Christophe Pélissier, il fait pas les live vidéo
sur Radio Bonheur. Voilà. Plus rarement.
Et Pierre, préparez-vous dimanche parce qu'autant vous dire que là, j'ai une voix qui va porter. Étant donné que je ne pense pas jouer dimanche, je risque de vous coacher. Attention à vos oreilles.
Nouvel entraîneur de Ruka.
Attention aux oreilles.
Ruka B, Saint-Potent B. Le seul match que j'ai dans la saison. Et j'attends Gaëtan Pinel au speaker. Hein.
Oula. On vous attend.
Bonne soirée, messieurs.
On vous attend.
Bonsoir.
Bonsoir. Radio Bonheur, 20h33. Retour de la musique sur Radio Bonheur. Les déchaînés du football, vous les retrouverez demain matin dans la rubrique à 8h40.